Ce matin, je vais approfondir un peu la notion de louange dans le cadre de l'Ancien Testament, où il y a beaucoup, 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 beaucoup de versets, en particulier les psaumes, sont remplis de la louange. Alors, je le replace dans le contexte, hein, c'est Moving Glad, c'est le projet que Dieu nous a suscité il y a à peu près un an. Voilà, et merci pour ceux qui ont trouvé cette appellation, parce qu'elle est elle est remplie de révélations. Hein. C'est le mouvement intergénérationnel de louange et d'adoration. Et ce projet doit aussi contribuer à réformer notre Église. Il y a 500 ans, la réforme protestante a réformé les doctrines catholiques qui étaient totalement déviantes. Et Luther en particulier était choqué quand il était à Rome où il y avait les indulgences pour payer toutes les structures qui sont à Rome qui sont inestimables tellement elles sont riches, mais c'était sur les pauvres que ça reposait pour les indulgences. Et il a réagi en disant que la foi repose, elle est gratuite, et que le salut, on ne le mérite pas. Et que les indulgences, il faut payer pour avoir moins de temps le purgatoire, etc. Voilà. Ce n'est pas du tout dans la Bible, ça. Et donc, il a réformé l'Église. Mais dans la réforme protestante, il y a marqué « Semper Reformanda », qui veut dire « se réformer toujours ». Parce que très très vite, je ne sais pas si vous avez remarqué, on se sclérose. Hein, si vous habitez quelque part où il y a de l'eau calcaire, le calcaire se dépose chaque instant, et puis à un moment donné, toutes vos canalisations ne marchent plus. J'ai dû changer le chauffe-eau et tout ça. Voilà. Et heureux ceux qui sont dans les pays, comme en Bretagne ou dans les Alpes, quand on dit ah, il n'y a pas de calcaire, c'est super, tout est nickel, etc. Mais nous, on est remplis de calcaire parce que dans notre eau, il y a le péché. Et ce péché, il pollue tout. Voilà. Et Jésus est venu pour l'enlever. Et donc, on a besoin de se réformer toujours. Toujours. Et nous, on a subi une grande réforme dans l'Église en 98. Bon, je ne raconterai pas ce qui s'est passé, mais voilà, ça a été vraiment le point de départ d'une réforme. Et là, on a senti l'an dernier qu'il fallait réformer un certain nombre de choses. Et c'est aussi en réponse pour croître en maturité dans la présence de Dieu. On a besoin de croître dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous avons la victoire, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, et que l'ennemi recule. Parce qu'on a un ennemi, hein. Jésus, il a été attaqué par le diable, hein, même s'il y en a qui ne veulent pas l'accepter comme une personne, c'est une personne. C'est une personne qui est venue attaquer Jésus. Et cette personne est toujours vivante. Hein, et nous a toujours affaire avec lui. Donc il ne faut pas diaboliser les choses, mais il faut savoir qu'il est là. Il est là partout, mais il faut pas dire qu'il est partout. Il faut simplement le savoir et agir en conséquence dans l'autorité du nom de Jésus. Et donc cette réforme, Moving Glad, doit nous amener plus dans la présence de Dieu. Il y en a qui aiment ça. Sans la présence de Dieu, qui sommes-nous? Okay. Donc c'est un bon projet. Voilà. Alors ce projet, il a une structure. Hein. On a d'ailleurs trois projets, hein, pour le rappeler rapidement. Le premier, c'est le MLR, Ministère de Libération et de Réconciliation des Cœurs, Père, Fils, Fils, Père. Donc le torrent qui est purifié, on va l'associer avec le ministère de la Maison d'Élie. Élie, qui est celui qui doit venir pour réconcilier le cœur des pères avec leurs enfants, leurs fils, leurs filles. Et donc ça, c'est pour établir des communautés stables, capable d'être des ambassadeurs. Est-ce que vous voulez être un ambassadeur dans ce monde? Ambassadeur, c'est pas facile. Hein, Colette en sait quelque chose. Quand vous êtes dans un pays hostile, bah, du jour au lendemain, vous pouvez vous dire, vous dégagez. Et si vous faites une erreur de... Comment ça s'appelle de, je cherche le mot. Le nom, je l'ai sur la langue. Protocole. Une erreur de protocole. C'est foutu, hein. Vous êtes renvoyé de votre pays. Parce que l'ambassadeur fait une erreur de protocole dans le pays où il est, c'est grave. Et nous aussi, nous sommes dans un pays hostile. Dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit, l'apôtre Jean? dit celui qui aime le monde, il est inimitié contre le Père. C'est-à-dire qu'il se place en hostilité avec Dieu. Parce que le monde est contre Dieu, par nature, parce que c'est le prince de ce monde, c'est le diable. Donc faisons attention, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que par la naissance d'en haut, nous sommes ambassadeurs du royaume d'en haut. Et nous devons apporter dans ce monde la révélation du Père, l'amour de Dieu. Et c'est ça notre appel. Donc ça c'est la première réforme, le MLR, où on associe, on ne voit pas que des démons partout, mais on les voit et on les chasse, mais on restaure la personne. Et on restaure pour que la personne soit capable, ensuite après, d'ordonner à ses esprits de partir. Amen. Ça c'est notre appel. Deuxième appel, c'est Moving Glad, projet de croissance dans la présence de Dieu. Et le troisième, c'est évangéliser au XXIe siècle. Est-ce que nous sommes capables? Vous voyez, on vient de parler, je ne m'attendais pas à cette coïncidence, de ce film. Voilà, c'est important que vous puissiez vous inspirer de gens qui ont réfléchi pour vous, qui l'ont mis sous forme de film. C'est plus facile qu'une prédication, vous voyez. Vous êtes assis, vous regardez, etc. Mais le message est là, pour vous aider à évangéliser au XXe siècle. Pas au Moyen-Âge, au XXe siècle. Et là, ces films-là, enfin voilà, c'est aussi notre projet, c'est de partager l'évangile. Mais je pense que là, on a reçu avec Michel, au dernier séminaire RNC, quand on était là, on écoutait tout ce qui se passait, on a dit « Waouh !» On a eu un temps de réflexion pastorale, et on a dit « Mais évangéliser, pourquoi on ne le ferait pas avec d'autres églises ?» Vous voyez ? Amen. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur toutes les doctrines des autres églises. Il faut se mettre d'accord sur les principaux. Salut par la foi, etc. Mais bon, c'est le baptême du Saint-Esprit, voilà. C'est pas un must. Mais évangéliser nous... Aujourd'hui, on peut le faire ensemble. Et donc, on pensait à la gerbe, on pensait à ceux qui ont des ministères dans ce domaine-là. Si on, nous, on ne les a pas, on les partage. Et on évangélise ensemble. Ouais. Donc le GPSO, hein, le GPSO, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis là. Le GPSO, c'est quoi? Waouh! Tu habites où? Tu habites au Canada? Waouh! Waouh! Oh, il faut suivre un peu là. Le Grand Paris Seine-et-Oise, c'est notre ville. C'est notre nouvelle ville. Ben oui. Ville d'Aubergenville n'existe que... C'est une coquille vide. Hein. Toutes les compétences des communes partent dans les grandes agglomérations comme le Grand Paris et le Grand Paris Seine-et-Oise. Et autour de Paris, il y a des Grands Paris, je ne sais pas, Seine-et-Marne, Seine-et-machin. Voilà. Et on est combien dans cette ville? Alors, toi, tu sais tout. Alors, 450 000 habitants. Enfin, 420 000, c'est bon. Alors, au-delà de 400 000. 400 000 habitants. On est une ville, une grande ville, hein, de 400 000 habitants. Est-ce que Dieu ne nous a pas placés là pour évangéliser? Hello! Je vous ramène sur Terre, là. Voilà. Donc, c'est plus Aubergenville, c'est plus Elisabethville, hein, petite ville là, de quelques centaines d'habitants. Non, c'est le Grand Paris Seine-et-Oise. Et on est placé au milieu, au centre, messieurs, dames. Au centre névralgique, spirituel et physique. Et qu'est-ce qu'on fait là si on n'évangélise pas? Hein, Bruno, je sais que tu as un cœur d'évangéliste. Hein, on va te suivre. On va d'autres, suivre d'autres. Et on va se mettre ensemble pour que ce Grand Paris Seine-et-Oise, qui est la 12e porte de Paris, eh bien, puisse être évangélisé. Amen. On a un challenge, on a un défi. On a un défi pour la capitale aussi. Est-ce qu'on le relève ce défi ou est-ce qu'on le laisse à d'autres? C'est notre génération qui doit relever ce défi. Voilà, donc je passe. Et donc voilà, le PTCE, c'est le pôle territorial, économique de cet endroit où Jean-Marc Sémoulin a mis les pieds. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens dans ce projet. Donc on est prêt à y aller. Oui? Sur le sujet PTCE? Oui, oui, oui. Cette semaine, je crois. Oui, oui, j'aurais dû emmener la date, je ne sais plus. Voilà. Oui, cette semaine, parce qu'il y a eu l'inauguration avec toutes les autorités de l'État, hein, régionales, de l'État et tout ça, qu'on a suivi en direct ici. Mais ils n'ont pas eu le temps de présenter les projets. Il y a 200 projets. 200 projets. Et chacun de vous peut s'intégrer dans un projet quand même. sur les 200. Vous voyez, 200 projets pour faire vivre ce grand Paris. Et vous savez quel est l'objectif du PTCE ? Zéro chômage. Zéro chômage. C'est pas beau, ça ? C'est pas un projet de Dieu, ça ? C'est de donner de la dignité aux personnes et de pouvoir leur donner un travail qui leur donne cette dignité. Ben ça, c'est donner aux chrétiens. Le pôle économique et social, cette notion d'économie solidaire qui est différente de l'économie capitaliste, a été développée par un pasteur en 1848, messieurs, dames. C'est en 1848 que, je cherche son nom, Gide. C'est Charles Gide. André Gide, c'est son neveu, c'est parce que c'est l'oncle, hein, qui lui était écrivain, pas terrible d'ailleurs, mais Charles Gide. Bah, ce que j'ai lu sur Wikipédia est un peu... Enfin, bref, je ne suis pas littéraire, mais peut-être qu'ils se sont trompés. Charles Gide a inventé l'économie sociale et solidaire. Et c'est un chrétien, c'est un pasteur. Et une lame, ils reprennent, parce qu'ils sont à bout en France, les politiques ne savent plus comment donner du travail aux Français, aux citoyens. Et ben, ils appellent les chrétiens. C'est notre tour, les amis. Allons-y. Allons-y, soyons là, pour montrer que nous prenons soin des gens comme Christ a pris soin à son époque, des gens qui sont malades, qui ont besoin d'aide, etc. Voilà. Je ne vais pas continuer ce projet, puisque je voudrais juste revenir sur Mohinglad. Mohinglad, pour que vous le reteniez, j'aime bien moi les acrostiches, parce que je suis très mauvais en mémoire, je n'ai pas de mémoire. J'ai voulu développer ma mémoire étant jeune, j'ai tout fait et j'y arrive pas. Donc j'ai abandonné, je fais des bouquins épais comme ça pour développer ma mémoire. J'y arrive pas, j'ai d'autres qualités mais pas ça. Donc du coup j'aime bien les acrostiches parce que paf, ça m'aide, ça m'accroche et ça me donne le premier mot, la suite. Hein. Alors le premier mot, c'est la vision, why or what, motivé par notre vocation. Le M de Mohinglad, c'est motivé par notre vocation. Est-ce qu'on est motivé par notre vocation ? Nous sommes un être que Dieu a créé, que ce soit individuel ou collectif, qui avons une destinée. Nous sommes destinés. Et ça, vous le verrez sur le site d'église-aubergenville.org, destiné à. Nous sommes motivés par notre destinée. Donc, le projet Mohinglad rentre dans la vision. Œuvrer à la mission. Nous sommes missionnés. Nous avons une mission. Jésus a donné une mission à ses disciples. Et c'est la grande mission d'évangéliser et de faire des disciples. Le V, c'est voir des fruits. Nous sommes gratifiés par des résultats que Dieu fait pour nous, que le Saint-Esprit fait pour nous. Nous œuvrons pas par nos forces. Nous collaborons avec le Saint-Esprit et il nous gratifie de résultats qui glorifient le Seigneur et qui nous réjouissent en même temps. Alors ? Alors ? C'est ça, œuvrer dans le Seigneur. C'est pas donner toutes ses forces. Si vous donnez toutes vos forces, il y a des chances que vous travaillez par vos forces. Mais si vous comptez sur le Seigneur, eh bien, il va démultiplier les forces comme celles de l'aigle, et que vous allez déployer vos ailes et monter en hauteur. Mais si vous déployez vos forces, vous allez vous épuiser, même en étant chrétien. Voyez ? Donc, motiver, œuvrer et voir des fruits. C'est moving. In, ING. Ici, ING, c'est intergénérationnalité, notre foi. Notre foi, nous avons dépassé. Nous avons des gens qui étaient dans le passé, qui avaient la foi, et on prend comme le relais, le bâton, oui, et on doit se donner le relais. Et le relais aux nouvelles générations. Et toutes les générations doivent aussi vivre de notre foi. S'ils voient notre foi, ça va les entraîner dans la foi. Si nous ne sommes pas dans la foi, eh bien, ils vont... peuvent avoir leur foi, eux. Mais nous sommes responsables de transmettre la foi. Amen. Donc l'intergénérationnel est important. Et ensuite, nouveau un acrostiche pour glorifier Dieu par la louange, praise en anglais, la louange qui, traduction, c'est une grande admiration. Vous voyez, quand on vient ici, ensemble, on va avoir une grande admiration pour le Seigneur. Hello ? Pour sa bonté, sa grandeur, sa puissance, pour Dieu qui est notre Dieu, chacun, et qui fait de grandes choses. Hein. Donc la louange, c'est pour apporter cette cette proclamation de tout ce qu'il est pour nous. Ensuite, pour l'adoration, worship en anglais, praise and worship. Worship, c'est rendre hommage, rendre honneur à celui qui est digne de recevoir notre honneur. Vous voyez, donc, il y a une sorte de, de majesté. C'est pour ça que la louange, je suis contre la danse pour la danse. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la danse. C'est le mouvement qui a un honneur pour le Seigneur. On a toujours avoir une révérence, on doit toujours avoir une retenue dans notre façon de faire, de s'habiller. Il y a tout ça, hein, toutes ces valeurs qui sont derrière. Et le dernier, je l'ai trouvé, bon, vous pouvez en rester là, louange et adoration. Et moi, je mets déification. Alors, c'est quoi cette déification ? Eh ben, j'étais un peu confronté par la notion de déification qui est en théologie la théosis. Je ne savais pas que ça existait. La théosis, c'est simplement l'union de Dieu en Christ. C'est effectivement l'appel qu'on a en tant que chrétien. Nous sommes appelés à nous unir à Christ. C'est ça d'ailleurs la notion de l'épouse. Et le problème, c'est que la théosis, elle est maintenue dans le christianisme oriental, mais beaucoup moins dans le christianisme occidental. Dans le christianisme occidental, c'est devenu une sorte de mystique avec des gens qui planent à 100 000 lieues, etc. Voilà. Et ça donnait les mystiques, vous voyez, avec les stigmates, les machins, etc. Donc, bien sûr, on est en rejet un peu par rapport à ça, mais la mystique chrétienne existe parce que nous sommes des mystiques, au sens propre du terme. Nous sommes en union avec Christ. Mais nous ne devenons pas Dieu par la mystique. Par contre, le Nouvel Âge utilise ça, donc c'est pour ça que mais moi j'aime bien les choses claires, même si les mots sont dévoyés, on leur redonne le sens originel qu'ils doivent avoir. Et donc, dans les temps de louange, dans les temps de Moving Glad, des temps, vous voyez, où simplement on est la présence de Dieu, dans le silence, où on n'est pas dans le mouvement, on est simplement dans le recueillement. Vous voyez, donc ça nous donne aussi le sens de ce que peut être le contenu des Moving Glad. Voilà, alors je ne reviens pas là-dessus, c'est vertical, horizontal, parce que corps, âme et esprit, nous sommes trinitaires. Donc, me voici, ça veut dire que je viens à l'église, non pas de manière nonchalante, voilà, qu'est-ce que je fais là, bien sûr, je vois des copains, des copines, non, je viens, Seigneur, devant toi. Hein. Donc, ça se voit, moi je vois les personnes qui viennent, et je vois dans quelle attitude ils viennent. Donc je vous invite à vous mettre dans l'idée que quand vous venez, vous dites « Me voici, Seigneur. Je viens pour te rencontrer. Je viens pour rencontrer les frères. » Vous voyez, une sorte de, voilà, de quant à soi. Vous savez pourquoi vous êtes là. Et pourquoi vous venez à l'heure ou pourquoi vous venez pas à l'heure. Et tout ça, ça en fait partie. Hein. Okay. Non, mais j'ai rien dit. Hein, je veux dire, je suis pas en train de faire de la morale. Hein. Je ne fais pas de morale. Non, moi je ne fais pas de morale. Simplement, je dis des vérités on peut être une fois en retard, mais si on est tout le temps en retard, on peut se poser des questions. Pourquoi je suis en retard? Est-ce que le Seigneur n'en est pas digne? Quelques questions comme ça, posez-vous des questions. Ensuite, je suis là de par ma vocation. Donc me voici, Seigneur. Et ma vocation, c'est au ciel. C'est pas sur la terre. Le mandat sur la terre, c'est après. Mon premier mandat, je suis né d'en haut. Et si je ne suis pas né d'en haut, je ne suis pas un chrétien. Je suis dans le christianisme, mais je ne suis pas un disciple de Christ. Parce que un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui est né d'en haut. Ceux qui n'ont pas expérimenté ne peuvent pas le savoir. Si vous êtes baptisé parce que c'est le rite, vous ne savez pas d'où vous êtes né d'en bas. Non, mais le chrétien est né d'en haut. Me voici, Seigneur. Vous voyez, ça pose. Ensuite, j'ai une mission. J'ai une mission d'aimer mon prochain. Même si c'est mon ennemi, j'ai une mission. Une mission, ça ne se discute pas. Vous connaissez le film, là, Mission Impossible, là ? Tchou, hein ? On brûle le truc et faut aller jusqu'au bout. Bah oui, mais avec le Seigneur. Ce n'est pas mission impossible, c'est mission possible dans l'impossible, mais c'est possible avec le Seigneur. Donc j'ai une mission. Et la mission, c'est pas le ciel, c'est d'aimer, c'est de tendre la main, c'est quel que soit le prix que ça me coûte. Voilà, ce que Jésus m'a précédé. Hello ? Voilà, donc la mission. Et ensuite après, Ah bah, c'est le mouvement, c'est la conjugaison de l'être et du faire qui fait que je vais. Mes pieds me portent. Vous voyez, je ne reste pas dans l'objectif de vouloir aimer, mais j'aime, je fais. Et je conjugue. Et je suis gratifié parce que le Seigneur est avec moi. Si vous visitez les malades, c'est moi que vous avez visité. Si vous donnez à manger à celui qui n'a pas mangé, c'est moi que vous avez donné. Si vous allez visiter quelqu'un en prison, c'est moi que vous avez visité. Hello ? Ça vous dit quelque chose, là ? C'est dans la Bible, ça ? C'est le mouvement. Okay ? Donc, nous traduisons ça en mouvement, le mouvement de glade, mais l'idée, c'est de le faire après dans la semaine, en réalité. Bon, de manière collective, c'est pareil, donc j'insiste pas. Donc, voilà, quand on danse, voilà, collectivement, c'est un mouvement collectif. C'est-à-dire qu'on est dans un projet ensemble. Quand vous êtes chez vous, vous avez votre projet avec le Seigneur. Bon, s'il prend toute la place, bah, vous ne pouvez pas venir à l'église, donc vous êtes votre église, bon, si vous voulez, bon, c'est votre conception. Mais si on comprend que l'église est collectif, on vient dans l'église avec le désir de participer à un projet de l'église. Ok, c'est la palisse, n'aurait pas mieux dit. Ok, mais parfois, la palissade, vous voyez, il en faut pour des chrétiens, parce que voilà, on est tellement dans d'autres trucs. Non, nous, on a des projets. On a un bâtiment de 900 mètres carrés ici, en région parisienne, et on a des projets. On a une maison de prière, on a tout plein de choses qu'on peut faire, mais si vous ne venez pas, ça ne se fera pas. Il faut être conscient qu'on est un corps. Et le corps, il est en mouvement. Hello. Alors, j'aurais juste terminé par cette expression qui sont utilisées dans l'Ancien Testament, particulièrement en hébreu, puisque c'est l'hébreu qui est utilisé pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. En hébreu, il y a sept expressions, sept mots qui traduisent le mot louange. Alors, je ne parle pas de l'adoration, ni de la théosis ou de la déification, je parle de la louange. Alors, première expression, le mot, c'est halal. Halal. Je ne sais pas si je le prononce bien. Hein. Halal. Hello? Je n'ai pas appris l'hébreu, hein, donc je me débrouille comme je peux. Halal est une racine de base en hébreu qui signifie louange. Et quel est le mot que nous, vous utilisez tous? Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, vous savez qu'Alléluia, n'importe quel pays, voilà, que ce soit en Chine ou en Suède ou en États-Unis, c'est Alléluia, bon, peut-être avec une prononciation différente, parce que c'est une racine hébraïque, racine des Hébreux. Voilà. Alléluia. C'est le mot Alléluia qui vient de sa racine qui signifie être clair. Tiens, clarté. Être clair. Louer. Briller, se vanter, montrer, s'enthousiasmer. Enthousiasme, d'ailleurs, ça veut dire enthousiasme, il y a Théo dedans. Donc Théo, c'est Dieu. Ça veut dire être exulté devant Dieu, vous voyez, s'enthousiasmer. C'est une exaltation de Dieu. Donc vous voyez, le premier mot qui est utilisé. Alors quelques versets, il y en a beaucoup. Hein. Psaume 113, versets 1 à 3. Louer. Donc, halal, l'éternel. Halal, Adonai, enfin en hébreu. Il y en a qui connaissent l'hébreu ici, mais je vais bien leur laisser la place. Okay. Louer l'éternel, donc c'est le mot halal qui est utilisé. Serviteur de l'éternel. Louer à nouveau halal, le nom de l'éternel. Alors, alléluia. Psaume 150, verset 1. Louer, donc halal, l'éternel. Louer halal, donc Dieu dans son sanctuaire, louer, donc halal, dans l'étendue où éclate sa puissance. Psaume 149, verset 3, qu'il loue ton nom, donc halal, avec les chants qu'il célèbre avec le tambourin et la harpe. Je ne vais pas vous lire les autres, il y a Juges 16, 24. Il y a 2 Samuel 14, 25, il y a 2 Chroniques 7, 6, Esdras 3, 10 à 11, Néhémie 5, 13, Psaume 18, verset 3, 56, 63, 150, Isaïe, Jérémie, Joël. Il y a beaucoup de noms. Je pourrais vous envoyer la liste si vous voulez voir tous les passages. Le deuxième mot qui est utilisé pour louange, c'est le mot yada. Yada, c'est un verbe, alors qu'est-ce que j'ai mis ? Lancer la main, voilà. C'est un verbe dont la racine veut dire la main étendue. La main étendue. Vous voyez, là, on commence à toucher le corps. Vous voyez, le premier, c'est en disant Alléluia, hein, donc c'est plus du chant, briller, mais c'est pas que le chant, hein, c'est briller, se vanter, rencontrer, s'enthousiasmer. Et le deuxième, c'est la main étendue, lancer la main, et donc louer la main élevée. Le contraire de yada, c'est retirer sa main. Retirer sa main. Vous voyez, là, on est dans le geste, on est dans le mouvement, on est dans le corps. Alors, ça n'a rien à voir avec le chant, n'a rien à voir avec la musique, n'a rien à voir avec tout ça, et pourtant c'est loué. Alors, vous m'entendez? Voilà, donc vous voyez que le mouvement est au cœur de la louange. Ce que vous êtes en train d'expérimenter, je le sens là, dans votre tête, là, c'est un petit choc un peu, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le choc des paradigmes. Vous avez un modèle de pensée qui vous a été mis dans la tête. Parce que depuis toujours, que ce soit à l'église catholique, à l'église protestante, à l'église évangélique, à toutes les églises, voilà, c'est le chant. Et ça, c'est un paradigme. Donc on pense que louange, c'est le chant. Et quand il y a un autre paradigme qui vient en disant « mais non, c'est aussi le mouvement », waouh, ah, j'ai perdu, j'ai peur, je suis angoissé, j'ai le stress. T'es stressé, Lynn ?
Non.
Ah, heureusement que t'es là, parce que tu me déstresses, là. Tu vois, je sais quelqu'un qui n'a pas de stress. Tu veux rentrer dans ce paradigme du mouvement ? T'as pas peur ? C'est vrai ? Non, non, mais un petit peu. Non ? Non, parce que tu as un corps un peu... Voilà, t'es pas dans le canon. Ouais, je la provoque parce que je sais qu'elle accepte. Je ferai avec personne d'autre. Ouais. Pourquoi ? Parce que le corps, c'est pas la silhouette qui t'importe. C'est qui tu es. Et ce qui fait que vous pouvez être libre dans votre corps. Hein, vous pouvez être libre. Quand on n'est pas libre, ça veut dire que, voilà, il y a notre visage, comment on se voit. Et là, c'est plus fort que ce que Dieu nous voit. Comment Dieu te voit ? Tu es une belle créature. Tu es une créature merveilleuse, c'est ce qu'il dit. Et quand on croit ça, la silhouette, notre corps, qu'on est 1m20 ou qu'on est 2m50, qu'est-ce que ça fait ? Vous voyez ? Bien sûr, ça fait quelque chose si on est branché là-dessus. Si on veut que les gens nous voient d'une certaine manière et qu'on s'habille et qu'on a une silhouette, machin, etc. Ouais, mais ça veut dire quoi ? C'est l'idole, ça. On est idolâtre. Mais on est idolâtre par nature, les enfants, les amis, les frères et sœurs. Notre idole, c'est ce qui prend toute notre énergie. Mais si on est dans le Seigneur, toutes ces idoles, elles tombent en miettes. Okay. Et on est branché sur ce que Dieu dit, sur sa parole. Lancer la main, c'est ce qui est utilisé. Alors, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21, louer l'Éternel, c'est-à-dire Yada, Yada, car sa miséricorde dure à toujours. Dans Psaume 107, 15, qu'il lance la main. Voilà, qu'il loue l'Éternel pour ta bonté, pour la merveille en faveur du Fils de l'homme. Qu'il étende la main. Vous voyez, c'est une main de bénédiction. Il y a d'autres références, Genèse 29, 35, Genèse 49, 8, après il y a Chronique, Psaume, Ésaïe, Jérémie, j'ai tout un tas de... où le mot Yada est utilisé, qui est lancé la main, mais qui est traduit louange. Vous voyez, on est très pauvre en français. Chaque fois, c'est louange, 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 louange. Tous ces 7 mots, c'est marqué louange, donc vous ne comprenez pas. Donc votre paradigme est forgé par la parole de Dieu même, du langage qui ne traduit pas toute cette richesse d'expression de la louange. Troisième, c'est toda. C'est l'extension de la main d'adoration. Donc là, c'est la même racine que le mot yada, mais utilisé de manière plus spécifique. Tova veut dire une extension de la main, un vœu, une acceptation. Par application, on a déduit que dans les psaumes et ailleurs, ce mot est utilisé pour remercier Dieu pour les choses qui ne sont pas encore reçues et pour celles et pour les choses qu'on a déjà apportées de main. Vous voyez, ça, c'est une question de foi. Les choses qu'on n'a pas reçues, voilà, en étant la main pour bénir, pour louer, et celles qu'on est en train de recevoir, parce que dans la foi, on croit que ce qu'on demande, on le reçoit. Vous voyez, on est dans la foi. Là, ce que Jésus, il enseigne, il s'appuie simplement sur l'Ancien Testament, sur les Écritures, où il dit « Toda, Toda ». Ben, Toda, ça veut dire « je prends ce que je dois ». Quand vous venez en réunion de prière, hein, je vous encourage plus à venir dans la réunion de prière, vous recevrez des choses. Et vous pourrez utiliser Toda pour saisir les vérités. Amen. Shabbat. Shabbat ou Shabbat, je ne sais pas. C'est crier d'une voix forte, commander, triompher. Psaume 47, verset 1. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Là, vous voyez, mot louange, on a, les traducteurs ont utilisé pousser des cris de joie. C'est louer. C'est le même, pousser des cris de joie. Donc, si le dimanche matin, vous poussez des cris de joie, bon, pas des cris de bêtes sauvages, mais des cris où on sent la joie, ben vous êtes dans la parole. Pousse des cris de joie et d'allégresse, fille de Sion, habitant de celui qui est au milieu du grand peuple d'Israël, Ésaïe 12, 6 et d'autres versets après. Je vais un peu vite parce que j'ai vu que l'heure avançait. Le cinquième, c'est Barak. Barak, c'est se mettre à genoux. On est de nouveau dans le corporel. La louange qui se traduit par un mouvement du corps. Vous voyez, apportez vos corps en sacrifice. C'est vrai qu'on n'a pas de prie-Dieu dans l'Église catholique. On devrait en remettre parce que ça permettrait peut-être. Mais ici, on a un plancher chauffant. Vous voyez, donc ça remplace. Vous pouvez vous mettre à genoux. N'hésitez pas. Quand il y a un chant qui s'y prête, eh bien, sentez-vous libre de louer de cette manière, parce que c'est ce que la Bible encourage de faire dans différents passages, comme 1 Chronique 29, 20. David et toute l'assemblée bénissez, donc Barak, l'Éternel. Donc agenouillez-vous devant l'Éternel. Et toute l'assemblée, Barak, à nouveau, donc la française dit béni, vous voyez. Béni, voilà, justement, ça ne nous oblige pas à un paradigme particulier de se mettre à genoux. Béni. Ah, je bénis. Non, ça veut dire se mettre à genoux. Alors, je me fais comprendre. Si vous voulez être des gens de la parole, écoutez la parole. La parole dit, mets-toi à genoux. C'est cette manière-là que tu vas louer le Seigneur. C'est ça. Psaume. Chapitre 34, verset 1, je bénirai l'Éternel, c'est-à-dire je m'agenouillerai devant l'Éternel en tout temps. C'est ça, louer, dans ce contexte. Je me fais comprendre. Vous voyez, les traducteurs, traductore, traîtres. Les traducteurs sont des traîtres. Mais oui, ils sont traîtres. Parce que tous, on devrait apprendre l'hébreu et le grec. Tous. C'est comme ça que la réforme est venue. C'est parce que la Renaissance, le grec et l'hébreu ont été remis à niveau, parce que c'était le latin, tout le monde parlait latin, que les réformateurs ont découvert. Ont dit, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. La révélation est venue. J'espère que pour vous, c'est une révélation. Ce matin, que Barak, c'est à genoux. Donc si vous mettez à genoux, vous obéissez à la parole. Dans ces temps où le mot Barak est utilisé, je bénirai, je barakerai, je mettrai à genoux l'Éternel en tout temps, hein, je barraquerai l'Éternel en tout temps, c'est-à-dire je mettrai à genoux en tout temps. Hein, ça ne veut pas dire que je demande de faire un pèlerinage à la Mecque avec les genoux par terre, hein, ou n'importe où, au Mont-Saint-Odile, moi j'ai fait ça. Non, mais je serai humble en tout temps, dans mon travail, partout, devant un examen, je mettrai à genoux et le Seigneur honorera cette louange. Amen. Zamar, avant-dernier. Ah, enfin, notre paradigme. Il va être satisfait, on peut chanter, on peut louer. Donc le chant fait partie aussi de la louange, c'est vrai. Mais vous voyez, il n'y a pas que lui. Alors bien sûr, c'est « Lève-toi, bénis avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance ». Alors là, les traductions sont bonnes. Voilà. Par hasard, ça colle. Et le dernier, c'est Tehila. C'est pas tequila. Hein. vous pouvez boire du tequila, mais là, c'est Tehila. Est dérivé du mot halal aussi, et signifie chanter les halal, chanter ou tout l'aude, l'audé, les laudes, hein, dans le catholicisme c'est connu, c'est des temps de, voilà, de l'après-midi où on chante les hymnes de l'esprit. Alors ça rentre aussi dans le chant en langue, les hymnes de l'esprit, les hymnes de louange, les hymnes, les chorales, les chants, les polyphonies, etc. Vous voyez, donc voilà, donc les chorales, mais ça, les évangéliques sont habitués avec les chorales, c'est pas un problème. C'est pas forcément pour les bonnes raisons, ni la danse pour les bonnes raisons. Mais quand on le fait pour le Seigneur, on le fait avec dignité, on le fait avec honneur, on le fait avec respect, on le fait avec intention, on le fait de manière motivée. Vous voyez, c'est tout ça. Et c'est l'enseignement général, et là la présence de Dieu vient. Sinon la présence de Dieu ne vient pas. Vous pouvez monter la sono, c'est pas la présence de Dieu. Vous pouvez faire un tas de techniques. Vous pouvez envoyer des images qui bougent dans tous les sens sur l'écran. C'est pas ça la présence de Dieu. Hello? C'est quand nous louons. Avec ces... Au moins c'est cette manière. Après il y a l'adoration, hein. C'est un autre message. C'est la louange. Quand nous faisons tout cela, eh bien, le Seigneur il se réjouit d'être au milieu de son peuple. Amen. Alors faisons-lui plaisir. Et réjouissons-le, parce que nous louerons le Seigneur tel qu'il le souhaite et tel qu'il nous l'indique dans sa parole. Amen.